On n'en prend pas forcément tout de suite conscience que c'est notre outil de travail. Quand on est jeune, à 20 ans, j'avais jamais mal après les matchs. On pouvait enchaîner les petits bobos sans grand problème. Et plus on avance quand même dans l'âge, plus on se rend compte que les massages, la récupération, le bain froid, le stretching, ça fait partie de notre quotidien. Et puis plus vite on s'en rend compte, mieux c'est, je pense.
On a tendance à l'imaginer un peu linéaire. On naît, on vit, on meurt. Mais dans ce grand intervalle qu'on appelle la vie, le chemin n'a rien de rectiligne. On aime, on pleure, on trébuche, on se relève, on bifurque, on affronte, on rit, on apprend. Sur cette route sinueuse, notre seul véhicule, c'est lui, notre corps. Celui qui nous porte et nous déploie, celui qui nous permet des exploits, que ce soit de donner la vie ou de gravir l'Everest. Mais parfois, sa santé s'enraye et elle vacille. C'est alors que s'ouvrent une ou plusieurs parenthèses, entre lesquelles il va falloir l'écouter, comprendre les mots qui l'affaiblissent, les traiter ou apprendre à vivre avec, mais quoi qu'il arrive, un peu autrement que sans. Un sentier sinueux qui surgit au milieu de la route et sur lequel on vous emmène avec nous dans ce podcast. Que se passe-t-il quand la maladie, l'accident ou même des événements plus joyeux, comme la naissance, ouvrent une parenthèse dans nos vies ? Ce podcast vous est proposé par Hirst London, les cliniques Boisset et Cécile, et Le Quotidien 24h. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser aux sportifs d'élite. Car quoi de plus précieux que sa santé quand son corps est aussi son outil de travail ? Souvent soumis à des entraînements intenses, poussés au maximum de ses performances, ce dernier peut aussi se fragiliser plus vite. D'où l'importance d'un suivi médical régulier et précis. Comme dans les sports collectifs où les soignants font carrément partie de l'équipe. Marco est attaquant au Lausanne Hockey Club. À 31 ans, il a déjà une belle carrière sportive derrière lui. Pourtant, en moins d'une année, ce ne sont pas moins de 3 blessures qui l'ont poussé à ralentir et à réenvisager sa relation avec son corps.
Je me suis blessé donc il y a un mois et demi au genou, donc pendant un match à Zurich. Et donc on a détecté que j'avais le ligament interne postérieur qui était partiellement déchiré. Maintenant c'est 3 mois avec cet attelle au genou. Je ne peux pas m'entraîner avec le groupe, donc je peux juste m'entraîner le haut du corps. Donc j'ai un programme un petit peu particulier et je ne peux pas m'entraîner les jambes et je ne peux pas faire de physio. Je me suis blessé 12 matchs avant la fin de la saison. C'est un peu frustrant parce que l'équipe tournait bien, c'est la fin de saison, on sait que c'est les choses intéressantes qui commencent, donc un peu de frustration. D'après le médecin, donc il faut 3 mois de repos avec cet attelle et on ne pouvait rien faire de plus. Et après ces 3 mois, c'est vérifier si tout s'est bien remis. Et sinon, ça sera passé par la case d'opération qui pourrait prendre 9 à 12 mois. Donc moi, je le prends positivement, je mets toutes mes chances de mon côté en me disant que ça va aller. Et puis voilà, il n'y a pas grand-chose à faire de plus. Bien se nourrir et puis attendre ces 3 mois.
Le docteur Guillaume Muff, spécialiste en médecine physique et réadaptation à la clinique Boissert. Il est aussi le médecin référent pour le LHC, un rôle pas toujours facile.
C'est vrai que parfois on est amené, quand les joueurs se blessent, à annoncer des mauvaises nouvelles, notamment en termes d'indisponibilité ou si le joueur va devoir subir une opération qui va l'écarter longtemps de la patinoire. Ils sont assez réalistes par rapport à ça. C'est quand même des professionnels, ils ont une bonne conscience de leur corps, de la nécessité d'en prendre soin pour préserver leur outil de travail, avec une vision parfois à court terme en fonction de la saison et puis des enjeux dans lesquels on se trouve à court terme, et puis des fois des enjeux plus à long terme pour le maintien dans leur carrière en fait à ce niveau-là. Ils y font face, on fait aussi en sorte de les maintenir le plus possible en contact avec l'équipe, c'est-à-dire que même lorsqu'ils sont blessés, ils font partie intégrante de l'équipe, ils continuent de venir à la patinoire, on essaie dans la mesure du possible, dès que la rééducation peut être faite en dehors du cadre hospitalier, de la faire suivre par exemple à la patinoire pour les maintenir justement dans l'équipe et pas qu'ils soient complètement isolés, et ça c'est très important. au niveau du hockey, les blessures les plus fréquentes restent quand même effectivement du domaine de l'orthopédie ou de la traumatologie. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup de lésions musculaires, articulaires ou tendineuses. Alors on différencie dans ce cas-là les lésions dites traumatiques, c'est-à-dire lorsqu'il y a un coup, un impact avec une blessure, parfois une fracture, qui sont quand même relativement fréquentes aussi, contre les lésions dites un peu de surmenage, qu'on appelle l'overuse, c'est-à-dire les lésions de surcharge liées à une mauvaise récupération et puis à une pratique parfois trop intensive. Donc c'est les deux choses. Au niveau du hockey, on voit beaucoup de lésions au niveau des traumatiques, au niveau des épaules, au niveau des genoux et puis des poignets et des mains. Quelques fractures, forcément, avec les impacts assez forts que les joueurs peuvent subir. Et puis sur les lésions, disons, un peu plus de surcharge, les hanches sont vraiment l'articulation la plus touchée. Lorsqu'on est un sportif professionnel, c'est extrêmement important d'avoir un suivi médical régulier parce qu'en fait, leur corps est leur outil de travail. Alors bien sûr, il y a d'autres qualités à développer, mais c'est vrai que sans un corps en bonne santé et parfaitement fonctionnel, leur performance diminue et puis c'est leur source de revenus, c'est leur métier tout simplement. Donc d'où l'importance d'avoir un suivi régulier avec des mesures de prévention et puis des mesures de suivi en cas de blessure qui doivent être mises en place rapidement.
On n'en prend pas forcément tout de suite conscience que c'est notre outil de travail. Quand on est jeune, à 20 ans, j'avais jamais mal après les matchs. On pouvait enchaîner les petits bobos sans grand problème. Et plus on avance quand même dans l'âge, plus on se rend compte que les massages, la récupération, le bain froid, le stretching, ça fait partie de notre quotidien. Et puis plus vite on s'en rend compte, mieux c'est, je pense. J'étais épargné par les blessures. On va dire les 10-15 premières années de ma carrière. Et puis maintenant, ça m'est un peu tombé dessus. Donc depuis l'année passée, je me suis fait opérer du coude en fin de saison 2021-2022. C'était suite à un choc sur la glace et puis j'avais continué à jouer. Et puis j'avais des problèmes de mobilité dans le coude. J'ai dû me faire opérer. Et quelques mois après, en préparation, donc au mois d'août cette année, je me suis fait le ménisque au genou gauche. Je me suis fait la blessure à l'entraînement, tout seul, sur un saut, une mauvaise posture. Et donc là, j'ai été contrôlé directement le lendemain matin, faire des images à l'hôpital. Donc là, on a eu le résultat quelques heures après, et ça a été décidé de m'opérer le lendemain matin. Donc c'est des choses qui passent vraiment vite, car dans le hockey, il faut être le plus vite possible rétabli et pour être performant pour l'équipe. Donc le lendemain, j'étais sur la table d'opération. C'était ambulatoire, donc une journée à l'hôpital. Et dès le surlendemain, commencer la physio, car on a un physio qui s'occupe de nous à 100% à la patinoire, avec un programme spécial et des contrôles chez le médecin toutes les deux semaines. Et là, j'ai loupé un mois. Donc un mois de compétition, la même chose avec au début une attel. C'est peut-être à un moment donné l'usure, c'est vrai qu'on tire un peu sur la corde chaque année. Si on regarde mes 15 années professionnelles, j'ai peut-être loupé entre 10 et 20 matchs, donc c'est pas beaucoup. On joue des fois à nos limites, on pousse notre corps, donc à un moment donné peut-être qu'il dit un peu stop. Maintenant ça doit être aussi un peu la malchance ou il fallait que ça arrive à un moment donné.
L'enchaînement de plusieurs blessures comme ça doit au moins alerter sur le plan médical pour vérifier est-ce qu'il y a des facteurs qu'on pourrait corriger, notamment en termes de surcharge de travail, d'insuffisance des temps de récupération ou de choses comme ça. Après, il y a des blessures traumatiques qu'on sait très bien qu'avec le temps, vont évoluer vers des problèmes un peu plus chroniques et peuvent causer des fins de carrière ou mener une gêne persistante aux joueurs.
Pour Marco, la composante blessure-douleur fait en quelque sorte partie des aléas du métier.
On a une relation à la douleur peut-être un petit peu différente. Et aussi quand on se fait mal durant un match, il y a l'adrénaline. On ne sent peut-être pas forcément les choses autant. C'est souvent plutôt le lendemain ou le soir en rentrant dans son lit. Maintenant, c'est peut-être un petit peu une habitude aussi de vivre avec cette douleur. Après, on n'a pas mal non plus à en souffrir gravement. Mais je veux dire, on a souvent mal après les matchs, oui. Pendant ma blessure, donc j'ai vraiment eu mal sur le choc et après j'ai plus eu de douleur. J'ai pas eu besoin de prendre de médicaments, j'ai pas eu d'anti-inflammatoire. C'est vraiment, j'ai eu de la chance, je pense, au niveau de la douleur. Et c'est vrai que là, de pas solliciter mon corps, c'est vrai que ça fait bizarre. Là, ça fait un mois et demi sans douleur, c'est plutôt agréable.
Ces corps très sollicités le sont aussi parfois pour des raisons qui dépassent le strict effort physique.
je pense qu'on leur demande beaucoup. Est-ce que c'est trop? Probablement dans certaines situations. Après, ça répond à des contraintes organisationnelles, logistiques, avec parfois des matchs, notamment cette saison, où on a eu beaucoup de matchs sur 2 jours consécutifs, alors qu'après, on jouait pas pendant quelques jours. C'est des choses qui peuvent être un peu dommageables pour la santé de l'athlète quand même. Et pour le rythme des saisons, c'est imposé par le calendrier, par la télévision, par d'autres choses. C'est vrai que sportivement, des fois, pour la santé, on ferait les choses un peu différemment.
Évidemment, l'entraînement est donc capital pour se préserver un maximum.
Pour ne pas se blesser, bien sûr, on s'échauffe avant chaque entraînement, comme avant chaque match. Donc ça peut prendre entre 10 et 30 minutes, même plus. Chacun, c'est un petit peu individuel. Tous les matins, alors plus particulièrement moi, qui ai eu un petit peu des problèmes avec mon dos, donc je fais des exercices pour détendre mon dos, pour m'étirer. Après, avec le groupe, on fait aussi des échauffements. Donc, on a un entraîneur physique qui s'occupe de ça. Donc, on alterne un peu tous les jours entre les adducteurs, les hanches, etc. Après, on s'entraîne donc normalement sur la glace. Et souvent, après l'entraînement, c'est une séance soit de massage ou soit tout seul avec des rouleaux ou alors avec nos deux masseurs qui sont là tous les jours. À l'entraînement, c'est clair qu'on ne va pas aller à la même intensité en match, donc il y a quand même beaucoup moins de blessures à l'entraînement, il y a moins de chocs également. Pendant les matchs, il faut aller à fond, et puis je pense qu'on a plus de chances de se blesser en y pensant qu'en jouant son jeu et puis en y allant à fond.
Et en cas de blessure, les sportifs professionnels ont quelques longueurs d'avance qui facilitent leur guérison.
De façon paradoxale, c'est parfois un peu plus facile de suivre en rééducation. Alors, les sportifs professionnels, au moins ceux effectivement qui en vivent complètement, parce que finalement, on arrive à avoir un encadrement qu'on connaît, on arrive à avoir un suivi beaucoup plus régulier, un investissement en termes de temps. Et puis, les sportifs sont des gens qui ont l'habitude de s'entraîner. Et finalement, la rééducation, c'est un entraînement progressif où on y va palier par palier. Donc, c'est vrai qu'ils ont des facilités à ce niveau pour intégrer les notions, par exemple, pour un travail de renforcement musculaire, de choses comme ça. C'est des choses qu'ils connaissent déjà bien. Même si on doit les amener à un niveau de performance parfois un peu plus élevé, alors ça va prendre un peu plus de temps parce que c'est pas comme un retour juste aux activités de la vie quotidienne. C'est vraiment un retour à la performance qui doit être visée, mais c'est plus facile. Et puis on a un encadrement qu'on connaît, c'est-à-dire qu'on sait ce qui est fait, on va avoir un feedback régulier, on va avoir des points de passage où on attend à ce que le sportif soit à ce niveau-là. Et c'est beaucoup plus facile de travailler avec des gens qu'on connaît. Les sportifs sont pris en charge tous les jours, parfois plusieurs heures par jour également, par rapport à un sportif, disons, amateur qu'on doit rééduquer avec de la physiothérapie ambulatoire simple, où là, on a beaucoup moins de contrôle sur ce qui peut être fait et beaucoup moins de temps.
En ayant été blessé, j'ai partagé beaucoup de temps avec eux. C'est vrai que c'est des personnes qui font partie de l'équipe. Hein. Pour nous, ils font partie du staff autant que les joueurs et les coachs. Donc, c'est des personnes très importantes et qui sont très, très importantes pour les joueurs car ils leur donnent confiance et c'est grâce à eux qu'on revient sur la glace. Donc ça, on peut les remercier d'être là et puis de faire du bon travail tous les jours. On parle beaucoup avec eux, on se plaint aussi pas mal vers eux, donc ils encaissent aussi, et puis on a de la chance d'avoir des bons gars.
Forcément, on développe des liens, comme dans toutes les relations humaines, parfois plus avec certains qu'avec d'autres, mais effectivement, on a un lien privilégié avec eux, parce qu'on est quand même à leur écoute, leur relais pour les problèmes médicaux. Il faut qu'il y ait une relation de confiance qui soit installée aussi, parce que c'est des sportifs professionnels dont le corps est l'outil de travail. Donc on n'a pas trop le droit à l'erreur à ce niveau. Et puis certaines saisons, il y a des sportifs qu'on ne va pas voir du tout, et il y a des sportifs qu'on va voir malheureusement un peu plus régulièrement. Donc forcément, on développe un peu plus de liens avec cela. On a un rôle de conseil aussi par rapport à ce qui est raisonnable de faire ou pas, par rapport à des durées d'indisponibilité, par rapport à des conseils de traitement. Certains se confient plus facilement que d'autres sur leurs états d'âme ou sur leurs difficultés en lien avec une blessure ou d'autres difficultés. Effectivement, il faut savoir rester à l'écoute et plus disponible pour les joueurs.
À 31 ans, l'attaquant lausannois porte désormais un regard différent sur la suite de sa carrière, entre optimisme et pragmatisme.
Ça fait un moment que je suis dans le milieu et puis je l'ai pu le remarquer par d'autres joueurs. La fin, des fois, ça vient compliqué avec la santé, mais pas toujours. Donc, moi, j'espère pouvoir arrêter ma carrière, pas pour des raisons de santé, mais pour des raisons de fin normale de carrière. C'est vrai que 31 ans, Si l'année prochaine, je commence à enchaîner les blessures et que j'ai plus de plaisir, c'est vrai que c'est compliqué. Maintenant, je vais préparer mon corps au mieux. On sait que les carrières, ça va jusqu'à 33, 34, voire 35 ans, les plus anciens dans notre équipe. Donc voilà, il faudra se préparer, peut-être faire plus de choses pour justement bien s'échauffer et puis éviter ces blessures.
Il y a des limites au fait de pouvoir encaisser des contraintes liées avec la pratique du sport professionnel comme ça dans le temps. Alors il y a toujours des contre-exemples et puis des cas de sportifs avec une longévité extrêmement importante. Ça dépend quand même beaucoup aussi de l'hygiène de vie, de ce que les sportifs font en termes de récupération pour prendre soin d'eux-mêmes et de leur capital. Et puis ça dépend aussi du nombre de blessures qu'il y a eu avant et du type de blessure. On peut avoir une blessure parfois très grave et un avant-après au sein d'une carrière, notamment sur certaines blessures au niveau du genou, au niveau des épaules ou par exemple un tendon d'Achille où on sait très bien que c'est possible qu'il y ait un avant-après et que le joueur ne revienne pas au niveau antérieur malgré tous les efforts, malgré une prise en charge totalement optimale. C'est des choses qu'on voit malheureusement pas régulièrement, mais c'est des choses qu'on peut être amené à voir. Après, en termes de longévité, il y a des limites effectivement. Passer en général vers 35 ans, 40 ans, on voit bien que le corps commence, il y a une certaine accumulation des blessures, des lésions de surcharge aussi, et on voit bien qu'on décline doucement.
Le puck tire des goals, et c'est l'ouverture du score.
Dans le sport d'élite, la notion de performance évolue depuis quelques années. Si elle semble de plus en plus impressionnante, de nombreux facteurs le favorisent. Il reste toutefois parfois dangereux de s'en inspirer dans le sport amateur.
Les performances augmentent effectivement depuis de façon importante ces dernières années aussi, parce qu'on a une meilleure compréhension, on a amélioré les techniques d'entraînement, les techniques de récupération, les athlètes y sont dédiés, on a vraiment une amélioration des performances à ce niveau-là, et puis on voit des volumes effectivement de pratiques qui sont extrêmement importants parfois, même chez des sportifs amateurs, et qui peuvent sembler médicalement déraisonnables. Quand on voit certaines pratiques d'ultra-endurance chez des sportifs amateurs, on peut se poser la question du bienfait pour la santé. Le sport a des bienfaits pour la santé, il faut trouver un juste équilibre entre des volumes qui sont insuffisants et lutter contre la sédentarité, et avoir des volumes horaires et une intensité de pratique qui est excessive et qui peut poser des problèmes pour la santé en termes de blessures. La prise en charge à ce niveau-là, au niveau de l'accompagnement pour le sportif, disons amateur, est beaucoup plus difficile, effectivement, parce qu'il n'y a pas d'encadrement, on a beaucoup moins de... On doit faire confiance à ce qui est dit, à ce qui est fait. Et puis on sait très bien que les patients, comme les sportifs, quand ils sortent du cabinet, ben, ils font finalement un peu parfois ce qu'ils veulent. Et ils ne sont pas toujours attentifs à ce qu'on leur a dit.
Merci d'avoir écouté cet épisode d'Entre Parenthèses. Vous trouverez des ressources sur la santé des sportifs de haut niveau en lien dans le descriptif de cet épisode. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles et un commentaire sur votre application d'écoute préférée pour donner de la visibilité à ce podcast. Et surtout, n'hésitez pas, partagez-le et parlez-en autour de vous. Et nous, on se retrouve dans un mois.